Oui, j'étais ici comme pasteur, pas ici dans ce bâtiment, mais même avant la rue Sleggers, j'étais pasteur dans l'église évangélique de Bolvay-Saint-Lambert. L'église était fondée en 79. Je suis arrivé comme pasteur en 81. Et jusqu'en 88, nous avons acheté le bâtiment maintenant avenue Sleggers. Et vous l'avez agrandi depuis, mais maintenant il faut encore agrandir, évidemment. Et oui, je suis donc j'étais, je suis maintenant à la retraite, bien sûr, membre de la mission évangélique belge qui a implanté cette église avec la mission américaine des églises libres. Et j'étais, avant de venir ici à Valois, j'étais pasteur à Ottigny-Louvain-la-Neuve. Et puis après, j'ai commencé une église à Kreinheim-Wiesenbeekhoppen aussi. Je pense partager une joie et une peine. Je pense que je peux partager une joie de voir Joël et Catherine Bogart ici. Je me rappelle du temps qu'ils sont venus pour la toute première fois dans une réunion biblique en Belgique, où j'étais l'orateur à Kreinheim, et par la suite, ils sont venus au Seigneur, et je suis content de les voir engagés encore dans cette église pour la gloire du Seigneur. Quant à une peine, certains d'entre vous connaissent l'histoire de notre fille, Johanna, qui était membre de l'église ici, et qui est maintenant fidèle dans l'église en Écosse où nous sommes. La grande peine que nous avions, c'était de constater sa maladie mentale. Elle a suivi quelques années, 4 ans de psychiatrie à Kortenberg, avant de pouvoir partir en Écosse, où, grâce à Dieu, elle s'est retrouvée, nouveaux médicaments ou meilleurs soins que nous avons reçus là-bas pour elle. Elle vit une vie normale à nouveau, et on est dans la joie que cette peine ait été transformée en joie pour nous. J'ai aussi écrit quelques ouvrages. D'ailleurs, ce livre-ci, L'essentiel des grands thèmes de la Bible, je l'ai écrit quand j'étais pasteur à Woluwe. Je me suis dit à l'époque, il manque dans la littérature chrétienne évangélique un livre qui traite la doctrine chrétienne biblique qui n'est pas au niveau des étudiants en théologie, ni pas simplement une superficialité, mais quelque chose qui nourrirait le chrétien ordinaire dans nos églises. Je voyais ça pour mon propre ministère ici à Woluwe. Et donc j'ai écrit ceci. C'était autrefois intitulé La foi évangélique. Et la deuxième édition est rééditée sous le titre L'essentiel des grands thèmes de la Bible. J'ai juste 3 exemplaires sur la table là-bas et quelques autres exemplaires d'autres livres que j'ai écrits. Si vous voulez les acheter, je serai là après le culte. Je vous invite à prier avant d'ouvrir la Bible ensemble. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui parle. Et merci parce que ta parole est toujours vivante aujourd'hui. Nous avons besoin, Seigneur, de bien la saisir, bien la méditer. Nous te prions pour l'aide de ton esprit, autant pour celui qui parle que pour ceux qui écoutent. Que ta parole puisse trouver non seulement un lieu de repos dans nos cœurs, mais qu'elle soit aussi une semence qui poussera pour ta gloire dans la transformation de nos vies et de notre témoignage. C'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Nous allons lire partie de 2 livres de la Bible écrits par l'évangéliste Jean. C'est la deuxième lettre de Jean et la troisième lettre de Jean. Jean a écrit un évangile et puis il a écrit 3 lettres qui se trouvent à la fin de la Bible. Et vous avez sur la feuille une partie de la lecture que je vais faire de Jean et 3 Jean. Je ne vais pas lire toutes ces deux lettres, mais juste le début de chacune. De Jean, verset 1, de la part de l'ancien à la dame qui a été choisie et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et 3 Jean, verset 1, de la part de l'ancien au bien-aimé Gaius que j'aime dans la vérité. Vous avez remarqué ces phrases qui reviennent deux fois, que j'aime dans la vérité. La deuxième lettre de Jean semble avoir été écrite à une dame, peut-être symbolique d'une église, avec ses enfants, des membres de l'église. Et le deuxième à Gaius, un homme responsable d'une communauté. Et c'est écrit par un ancien. Le mot littéralement peut se traduire « vieillard ». Il écrit donc à ces personnes qu'il aime dans la vérité. L'amour et la vérité sont deux thèmes extrêmement importants, non seulement à l'époque de Jean, mais à notre époque aussi. Mais avant d'aborder ces deux thèmes, je vais encore juste lire 3 Jean, versets 1 à 4, et puis 2 Jean, versets 4 à 6. 3 Jean, versets 1 à 4. De la part de l'ancien au bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. 2 Jean, verset 4. J'ai éprouvé une très grande joie à rencontrer quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité conformément au commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, voici ce que je demande, chère dame, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous avons reçu dès le commencement. Or, l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris depuis le début. Voilà, deux thèmes importants, l'amour et la vérité, et ça continue en parlant des commandements qui introduit un troisième thème très important pour le chrétien, dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'obéissance. Mais nous allons parler d'abord de la vérité. Trois verbes sont employés dans ces deux textes pour parler de l'attitude du chrétien face à la vérité. 2 Jean, nous allons rester en 2 Jean maintenant, verset 1, à la fin du verset, Jean dit ceci, « Et ce n'est pas seulement moi qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. » Ceux qui ont connu la vérité. Voilà le premier verbe en rapport avec la vérité. Le chrétien, les croyants ici à qui Jean écrit, ont connaissance de la vérité. De sa part aussi, l'apôtre Paul, écrivant à Timothée, son collègue, enseigne en 2 Timothée chapitre 2, verset 23, qu'il faut enseigner avec douceur les contradicteurs, les non-croyants, afin que Dieu leur permette de se repentir et de changer de vie pour connaître la vérité. Excusez-moi, si quelqu'un peut trouver pour moi un verre d'eau, ça me plairait. Merci, Catherine. Changer de conduite ou changer de vie pour connaître la vérité. Aux Éphésiens 1, verset 13, l'apôtre Paul parle de la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Merci beaucoup. Je vais le prendre tout de suite. Merci beaucoup. Ramenez ça plus proche au code que j'aurai encore besoin. Donc, le chrétien se définit par le fait qu'il est venu à connaître la vérité. Je ne sais pas si vous vous définiriez comme cela. Quelqu'un qui connaît la vérité. Mais les apôtres utilisent ce langage, et Jésus aussi utilise ce langage. Et pourtant, aux oreilles modernes, ça semblerait un peu audacieux de dire « connaître la vérité ». Non. Aujourd'hui, avec une semblance d'humilité, on se dit « non, personne ne peut connaître la vérité ». Chacun a son opinion, mais bon, en matière religieuse, qui peut dire qu'il a la vérité ? Et si nous sommes chrétiens, et si nous avons donc reçu la vérité, et si nous sommes conscients que nous avons trouver enfin la vérité sur Dieu, sur nous-mêmes, sur le sens de notre existence, nous avons de la peine parfois à communiquer cette assurance dans un monde qui pense qu'il n'y a pas de vérité en matière de religion, que chacun a son opinion, l'opinion des musulmans, des hindous, des bouddhistes, vaut aussi bien l'opinion des catholiques et autres. Et qui suis-je, moi ? De dire qu'eux n'ont pas la connaissance de la vérité et que moi, j'ai la connaissance de la vérité. Et nous vivons dans ce relativisme ambiant aujourd'hui qui peut saper notre conviction d'avoir reçu la vérité dans la parole de Dieu. Nous avons un immense privilège de connaître la vérité. Le monde autour de nous, dans ce relativisme, pense qu'il n'y a pas de vérité parce qu'ils raisonnent seulement à partir de leurs compétences. Est-ce que l'homme par lui-même peut découvrir la vérité ? Peut-être en science, avec des expériences, oui. Mais en matière spirituelle, religieuse, tout ça, l'au-delà, Dieu, qui peut dire qu'il a découvert, qu'il peut pondre la vérité à partir de ses propres réflexions, à partir de sa philosophie ? Ce n'est pas possible. Effectivement, ce n'est pas possible. Il faut avoir accès à une autre source de vérité pour connaître la vérité sur ce sujet-là. Et cette autre source de vérité, c'est évidemment Dieu. Dieu est la personne infinie dans sa connaissance qui connaît tout ce qu'il y a à connaître, allant jusqu'aux étoiles les plus lointaines, jusque dans l'atome et tous les détails les plus petits. Dieu connaît tout. Il est le seul être dans l'existence qui connaît tout. Et il nous rend le service. Nous qui, par notre propre compréhension, ne peuvent jamais atteindre cette vérité, il nous rend le service de nous révéler la vérité sur Dieu, sur le sens de notre existence, pourquoi nous sommes là, où nous allons après la mort. qui peut pardonner nos péchés, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est droit. Dieu nous rend ce service extraordinaire. Et quand nous venons à Christ, et quand nous recevons sa parole, son évangile, cette parole de vérité, l'évangile de notre salut, eh bien, nous venons à la connaissance de la vérité. Nous n'arrivons pas tout de suite, évidemment, à tout connaître dans cette vérité. Mais ce que Dieu révèle dans sa parole est vrai, absolument et entièrement vrai. Donc, Jean écrit aux chrétiens ordinaires comme vous et moi, en parlant de « vous avez connu la vérité ». J'espère donc que ça va vous encourager quand vous êtes en dialogue avec vos amis non-croyants et qui peut-être rejettent votre message comme votre opinion. Bon, d'un côté c'est notre opinion, mais c'est bien plus que notre opinion. Ce n'est pas notre opinion que nous avons inventée. Nous avons les yeux ouverts pour recevoir la révélation de la vérité de Dieu. Donc, avoir connu la vérité, c'est une description du chrétien. Pas une connaissance totale, mais néanmoins une connaissance vraie. En 2 Jean, verset 2, il y a un deuxième verbe qui est utilisé en rapport avec la vérité. Nous vous aimons à cause de la vérité qui demeure en nous. Voilà, la vérité demeure en nous. C'est un peu plus que simplement connaître la vérité. Cette vérité prend son siège dans nos cœurs et dans notre entendement. Nous avons accueilli cette vérité. Nous ne l'avons pas simplement lu au loin, réfléchi là-dessus de loin, mais nous l'avons accueilli en accueillant Jésus. La vérité proclamée par les chrétiens quand nous prêchons l'Évangile doit être reçue. Et cette vérité doit être reçue pour des raisons intellectuellement valables. Ce n'est pas simplement qu'on nous dit ça, donc je ferme les yeux et j'avale. Non, la vérité de Dieu, par définition, peut se soutenir elle-même. Elle est valable intellectuellement, évidemment, puisque ça vient de la personne la plus intellectuelle dans l'univers. Dieu est un Dieu raisonnable. Le christianisme est une foi raisonnable, essentiellement raisonnable, bâtie sur des événements historiques vérifiables, la mort et la résurrection de Jésus-Christ notamment, mais bien d'autres choses aussi qui sont relatées dans la Bible comme des vérités historiques. Le fondement de notre foi est donc dans un Dieu qui dit la vérité. En Isaïe, Dieu lui-même dit ceci. Excusez-moi. En effet, moi, l'Éternel, je dis... Excusez-moi. En effet, moi, l'Éternel, je dis ce qui est juste. Je révèle ce qui est droit. Isaïe 45, verset 19. C'est Dieu lui-même qui dit ça. Je relis. En effet, moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, dans certaines traductions. Je révèle ce qui est droit. Autrement dit, Dieu qui connaît toute la vérité, qui est à connaître, dit ce qui est vrai. Il partage son savoir infini par les paroles qu'il prononce et qu'il inspire et qu'il révèle par sa parole dans la Bible. Jésus aussi. Alors, Jean chapitre 8, verset 40, il se décrit, « Moi, dit-il, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Extraordinaire, n'est-ce pas? « Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » À la fin du chapitre 12 de Jean, Jésus dit encore que les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit de les dire. Autrement dit, Jésus est le transmetteur de la vérité intégrale, de la connaissance infinie de Dieu lui-même. Le Fils de Dieu communique donc valablement cette vérité. C'est pour ça que nous avons une base valable pour croire et pour affirmer que nous connaissons la vérité en matière de Dieu, de l'au-delà, du sens de notre vie, etc. Notre source n'est pas notre savoir, tel philosophe, tel intellectuel, mais c'est Dieu lui-même qui s'est exprimé. Le seul être qui connaît tout et qui exprime correctement sa pensée dans sa parole. Alors il faut que cette vérité, dit Jean ici, demeure en vous. Il écrit aux chrétiens, cette vérité demeure en vous. Est-ce que cette vérité demeure en vous? Comment est-ce que cette vérité entre en nous? Bon, nous l'écoutons, nous la lisons. Mais Jésus lui-même dit, Jean 14, verset 6, « Je suis la vérité ». Vous connaissez le verset « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je suis le chemin, je suis la vérité. Accueillir Jésus, c'est accueillir la vérité. Et dans votre cheminement, je ne sais pas si certains d'entre vous ne sont pas encore venus à ce moment de recevoir pour vous-même le Christ, non seulement comme la vérité, mais comme le Sauveur, le Maître, le Seigneur de votre vie. Cette vérité doit demeurer en vous. Christ doit venir en nous. Nous n'étudions pas un livre historique qui raconte des histoires d'il y a 2000 ans. Nous parlons d'un Christ vivant qui frappe encore à la porte de notre cœur, qui veut entrer chez nous, demeurer en nous et qui promet de demeurer en nous par son Esprit Saint. Donc la vérité demeure en nous quand Christ demeure en nous et quand nous assimilons de plus en plus sa parole de vérité. Et ça prend du temps. De Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, dit que nous sommes sauvés par la foi dans la vérité. Donc la vérité, c'est le message de l'Évangile. Tout ce que Christ est, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, sa mort sur la croix, notamment pour nos péchés. Par la foi en ce Christ, ce Sauveur, nous sommes sauvés. Nous passons de la mort à la vie. Et puis Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, la parole de vérité demeure en nous et nous demeurons dans la parole de Christ et nous connaissons la vérité de plus en plus. Vous lisez, j'espère, la Bible chez vous, tous les jours, de préférence. Matin ou soir ou à un moment qui vous convient, elle n'est pas seulement une nourriture spirituelle, elle vous communique de vraies réponses à nos questions les plus essentielles. Elle nous donne des vérités sur Dieu, qui il est, qu'est-ce qu'il demande de nous. Elle nous donne des promesses merveilleuses de l'aide que Dieu promet. Elle nous donne énormément de richesses pour notre vie de tous les jours. Lisez la Bible tous les jours. Prenez, si vous n'avez pas encore l'habitude, prenez le Nouveau Testament, un des évangiles par exemple. Commencez un chapitre par jour. Ou plus. Il n'y a pas de règle. Mais si vous n'avez pas encore l'habitude de lire régulièrement la Bible, commencez. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, vous livrera, conduira dans une vie vraiment libre. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Avec la lecture de la Bible, il y a la prière, notre culte personnel, comme on appelait ça dans le temps. La connaissance de la vérité qui demeure en nous, troisièmement, au verset 4, à la fin du verset, non, pardon, j'ai 2 Jean 4, j'ai éprouvé une très grande joie à rencontrer quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. Et 3 Jean, verset 3, à la fin du verset 3, utilise cette même expression. Reçu le témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc, la connaissance de la vérité qui demeure en nous, et puis marcher dans la vérité. Se conduire selon la vérité que nous recevons de Dieu. Marcher, c'est un verbe intéressant parce que ça communique l'idée de progrès, progresser, avancer. Et le chrétien qui a reçu Christ comme sauveur par la foi est appelé à avancer dans la connaissance de Christ, la connaissance de la vérité et la marche dans la vérité. La vie chrétienne est vécue sous l'autorité de la parole de Dieu. Ainsi, 4 fois dans 2 Jean, versets 4 à 6, dans les 3 versets, 4 fois le mot « commandement » vient. En recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous nous engageons à lui obéir comme Sauveur. Non seulement nous recevons le pardon, le salut, la grâce, nous donnons ses enfants, nous recevons énormément de bénédictions en Christ, mais nous nous engageons en disciples de suivre Christ fidèlement jusqu'à ce que nous le verrons face à face au ciel dans sa présence. Le chrétien, le disciple, est embauché dans une vie d'obéissance. Nous avons à obéir à Christ parce qu'il est Dieu, parce qu'il est notre Seigneur. Et la vérité donc de Dieu, la vérité révélée, ne concerne pas seulement les faits et les doctrines, elle révèle aussi des commandements, ce qu'on appelle la vérité morale. Et ce monde aujourd'hui se perd non seulement par manque de repères pour connaître les réponses aux grandes questions de la vie, mais le monde se perd par manque de repères moral, pas de clarté en question de moralité. Chacun fait à sa façon. Le relativisme non seulement intellectuel, mais moral dans la conduite des gens. Nous sommes sauvés hors de cela pour vivre autrement. Pour non seulement connaître la vérité, mais de marcher selon la vérité. Là donc où Dieu définit le bien, selon sa volonté sainte, dans sa parole de vérité, la seule réponse qui convient, c'est l'obéissance. Nous n'avons pas de choix. Nous sommes créés par Dieu pour cela de toute façon. Et nous sommes rachetés pour effectivement vivre une vie d'obéissance. Quand Dieu prononce sa parole, que ce soit une doctrine ou un commandement moral, la réponse, c'est d'y croire à la vérité, parce que c'est vrai, et d'obéir au commandement, parce que ça, c'est aussi la vérité. La vraie façon dont l'homme est censé vivre selon le mode de fabrication donné par le Créateur lui-même. Il sait comment nous fonctionnons le mieux. Il nous dirige là-dedans, dans ses commandements. Marcher dans la vérité, marcher dans la lumière, comme Jean dit aussi dans sa première lettre, c'est renoncer donc au péché et vivre dans la sainteté selon les commandements de Dieu. J'ai beaucoup souligné, mettre l'accent sur la vérité, je pense que c'est essentiel. Parlons en terminant aussi de l'amour, parce que l'amour est aussi souligné très fort dans cette section, ces deux sections de cette lettre de Jean. En 2 Jean, verset 5, je vais lire maintenant. « Voici ce que je te demande, chère dame, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous avons reçu dès le commencement. » Jean dit ça, c'est presque la même chose en 1 Jean, chapitre 2, verset 7. Donc c'est pour ça qu'on voit que c'est le même auteur de 1 Jean qui répète son emphase. Et évidemment, ça fait référence au commandement nouveau que Jésus a donné à ses disciples. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Donc marchez dans la vérité, Paul dit, Éphésiens 5, 2, marchez dans l'amour. Et Paul écrit son fameux chapitre 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Eh bien voilà le chapitre qui définit pratiquement quel est cet amour chrétien. Ce n'est pas les sentiments émotionnels essentiellement. C'est servir l'autre, c'est surmonter son égoïsme, son mauvais caractère pour être gentil envers l'autre, pratiquement faire du bien, vivre dans la vérité. 1 Corinthiens 13, je n'ai pas le temps ni de lire ni d'expliquer tout ça, mais c'est là, je vous encourage de méditer cela. L'amour fraternel aussi, entre enfants de Dieu. Jésus donnait plusieurs commandements sur l'amour. Premièrement, il dit « Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée. » Donc, aimez Dieu, aimez votre prochain comme vous-même, c'est le non-chrétien à côté de vous. Et puis, aimez-vous les uns les autres dans l'Église, entre chrétiens, c'est encore son commandement nouveau. Aimez même vos ennemis. Il n'y a personne dans le monde que nous ne devrions pas aimer. Son amour versé dans nos cœurs nous permettra d'aimer tout le monde en toutes circonstances. 2 Jean, verset 6, dit « L'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. » L'amour pour Dieu, c'est l'adoration. Oui, c'est la joie de l'aimer, d'exprimer notre appréciation de tout ce qu'il est, nos remerciements, chanter ses louanges. Mais dans la pratique de tous les jours, l'amour de Dieu se manifeste dans la façon dont nous gardons les commandements de Dieu. Jean encore dit ceci dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder les commandements, ses commandements. Si on aime quelqu'un, on va plaire à cette personne. Si on aime Dieu, on veut lui plaire. Et on dit à Dieu, qu'est-ce que te fera plaisir de ma part. Et Dieu répond, bien, gardez mes commandements. Si tu fais ce que je demande, eh bien, je serai content de toi. Voilà, si vous voulez aimer Dieu, gardez ses commandements. Et le degré que vous gardez des commandements de Dieu, c'est le degré réel de votre amour pour Dieu. Nous sommes donc appelés à une vie d'obéissance, plaire à Dieu et faire sa volonté. Parlant de l'amour, nous vivons dans un monde où le thème de l'amour est maltraité, bafoué, perverti dans toutes sortes d'immoralités de nos jours. Et la Bible définit l'amour pur de Dieu, l'amour pur que nous devons avoir pour Dieu, pour nos frères et pour nos sœurs et pour nos voisins, nos prochains, nos proches. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, Paul dit, « Dieu vous a appelé à la sainteté de vous abstenir de toute immoralité, de toute porneia, c'est le mot dans le grec. » Ce qui signifie toute relation amoureuse, immorale, en dehors du mariage d'un homme et son épouse légitime. Ça, c'est le seul amour sans péché dont il est question entre personnes de façon sexuelle, je veux dire. Entre une femme et son mari, entre le mari et son épouse. Mais le monde qui n'a pas cette vérité, qui ne croit pas à cette vérité, qui ne suit pas cette vérité morale, descend dans toutes sortes de relativisme, égoïsme, immoralité, hédonisme. Mais pour nous chrétiens, nous sommes appelés à respecter la volonté de Dieu dans ce domaine aussi. Pas de pornéa, mot grec pour immoralité, signifie pas de sexe hors du mariage entre homme et son épouse, entre femme et son mari. Ça, c'est le plan du Créateur pour l'emploi de cet aspect de notre amour qui est la sexualité. Donc, si vous êtes converti, il n'est pas question de rompre cette relation maritale. Si vous et votre épouse sont des chrétiens, vous restez ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare, comme vous avez promis lors de votre mariage. Il n'est pas question de divorce pour chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 et 11 est très clair. Permettez-moi de vous les lire pour être sûr de ne pas dire des bêtises. À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction. Voilà, c'est pas l'idée de Paul, dit-il, mais Jésus lui-même dit ceci, que la femme ne se sépare pas de son mari, et si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne divorce pas de sa femme. Je ne vous connais pas, votre situation maritale. J'énonce simplement le principe de la parole. Je sais que c'est parfois difficile de recevoir cela, difficile de vivre cela. Mais je suis persuadé que Dieu, par son Esprit Saint, veut verser dans nos cœurs son amour qui permettrait à deux chrétiens mariés l'un à l'autre de surmonter les difficultés qu'ils éprouvent, parce que qui n'a pas de difficultés dans son couple, et de persévérer à grandir dans un amour et une unité qui glorifie le Seigneur. Marcher dans la vérité signifie marcher dans l'amour aussi dans notre couple. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et peut-être dans un couple où ça ne va pas, chacun doit prier, « Seigneur, remplis-moi davantage de ton esprit, que ce fruit de l'esprit me remplisse pour surmonter ma colère, mon égoïsme, ma paresse ou toutes ces autres choses qui minent l'entente dans le couple. » Pour terminer, que veut Dieu donc ? Dieu veut que vous saisissiez l'importance de la vérité, que vous connaissiez sa vérité et vous êtes sûr de la connaître, que cette vérité demeure en vous. Dieu veut aussi que vous marchiez selon cette vérité et que vous marchiez dans l'amour. Envers lui, l'amour envers lui et l'amour envers tous. Et Dieu veut troisièmement que vous viviez dans l'obéissance, guidé par sa vérité et motivé par l'amour pour lui qui nous a aimés le premier. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous devons avouer combien peu est notre obéissance et notre amour pour toi. Tu nous appelles à marcher de l'avant, à grandir, à avancer. Et aujourd'hui, nous voulons mettre derrière nous nos échecs, notre superficialité, notre incrédulité, notre désobéissance et renouveler notre engagement de t'obéir, de t'aimer par-dessus tout autre chose parce que tu nous as tellement aimés et tu nous as accordé la connaissance de la vérité pour nous guider toute notre vie. Renforce-nous, Seigneur, dans cette voie dans laquelle, à nouveau, nous nous engageons comme tes disciples rachetés ce matin. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur, pour que nous marchions dans ta vérité et que nous marchions dans l'amour, pour la gloire de ton nom. Amen.